Est-ce qu'on peut dire, donc du coup, les artistes, ils ont toujours quelque chose à dire, donc ça c'est très bien, beaucoup de choses encore à exprimer, mais ils sont pas pour autant, c'est pas sombre. Est-ce qu'on, là dans les exemples que tu as donnés, on peut sentir une un peu de choses un peu noires
Tout à
ou...
fait. Ouais. Il y a une part pessimiste hein, dans les exemples que j'ai donnés. Dans les exemples de Kawakubo et de Omaki, on le voit bien. Dans l'exemple de Chimpom, il y a quand même de la joie. Il y a énormément de joie. Quand ils vont à Shibuya là pour compléter l'œuvre de leur glorieux ancêtre de Okamoto Taro, il y a un côté un peu déconnade et puis mais c'est très sérieux en même temps. Mais il y a un côté bande de copains aussi qui s'amuse, mais qui s'amuse en pointant les choses les plus importantes de la société japonaise. Donc il y a pas seulement, il y a évidemment une inquiétude, il y a quelque chose d'un peu noir qui a pris la place, mais ça c'est normal, je dirais. Faut voir, c'est pas n'importe quoi ce qui est arrivé le 11 mars quand même. Il y a eu des morts, il y a toujours aujourd'hui des situations de grande angoisse, il y a toujours des gens qui sont réfugiés, des gens qui sont déplacés, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui ne pourront jamais. Bref, c'est normal que ça génère des œuvres d'art qui tout d'un coup soient un peu plus anxieuses ou angoissantes. Après, il y a aussi, alors, il y a d'autres exemples où il y a quand même, je pense à Nawa Kohei, qui lui, alors, il fait beaucoup de choses avec les animaux. Voilà. Il y a des grands cerfs. Alors, il fait des grandes sculptures de cerfs qui sont très belles. Et alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a choisi le cerf comme animal. Mais une d'entre elles, c'est qu'il nous dit que le cerf, en fait, voyage dans tout le Japon. Le cerf est un animal qui peut. Il y en a à Nara, là, les fameuses biches Shika. Il y en a dans tout le Japon. Et pour lui, choisir le cerf, choisir cet animal-là comme support de ses sculptures et de son art, c'était aussi rappeler justement que, c'est lui qui le dit, hein, que le Japon ne se réduit pas aux grandes villes. Et donc c'était montrer qu'en fait un cerf, il va dans la campagne, il va dans les forêts, mais il peut aussi contourner les villes. Donc c'est un thème aussi qui est très présent chez les écrivains et les philosophes japonais. Par exemple, le grand philosophe Takahashi Tetsuya, qui est natif en plus de Fukushima, qui a beaucoup réfléchi sur Fukushima, parlait d'un système de sacrifice. C'est-à-dire que pour lui, le Tohoku, avec sa centrale nucléaire, ses réacteurs, alimentait la grande ville de Tokyo toute proche. Et donc, on a. D'après Takahashi Tetsuya, il appelle ça un système sacrificiel, c'est-à-dire certaines parties du territoire, le Tohoku notamment, est sacrifié pour alimenter en énergie la grande ville, la mégapole de Tokyo. Et donc, dans l'art de Nawa Kohei, le fait de mettre comme ça un cerf nomade, un cerf qui se déplace, c'était une façon aussi de remembrer un pays qui était complètement éparpillé par la catastrophe nucléaire. Un pays qui a été divisé, pas seulement politiquement et idéologiquement, mais qui a été même divisé dans l'espace. Hein, le paysage même a été fragmenté, et il l'est toujours aujourd'hui dans la région du Tohoku. Donc voilà, donc vous voyez, les artistes ont réagi de plusieurs manières, pas seulement, comme tu le disais, d'une manière noire, inquiétante ou pessimiste, mais en travaillant sur des sujets, des thèmes qui permettent de poser les questions de la société japonaise, pas seulement par rapport au nucléaire, mais par rapport à, disons, un projet de société. Quelle société voulons-nous pour notre pays, le Japon? On a vu par exemple aussi revenir des images de. Un thème qui est quand même très présent dans la culture japonaise, mais qui est revenu en force dans l'art japonais, c'est le thème du fantôme, par exemple. Donc quelque chose qui est quelque chose de spectral qui se profile dans beaucoup d'œuvres. Donc voilà, donc encore une fois, c'est la réponse du milieu de l'art ou des artistes a été très variée. D'ailleurs, ces gens parfois ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, évidemment. C'est une société vivante avec ses contradictions, avec ses dynamiques. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez époustouflant la manière dont ces artistes ont réagi. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé dès 2012, parce que quand j'ai sorti Fukushima, récit d'un désastre en 2012, il y a plusieurs livres déjà qui sont sortis au Japon à cette époque-là. En l'espace d'un an, j'ai trouvé que le Japon avait su réagir intellectuellement. Il y a eu, on le sait bien, par exemple, les haïkus, les poètes, qui tout d'un coup ont pris une espèce d'importance incroyable. Alors, bon, je sais que dans la société japonaise, depuis très longtemps, on a un haïku au moins dans le grand journal quotidien par jour. Donc, je sais bien que c'est déjà important, mais ça m'a frappé de voir quand même que la variété des réponses intellectuelles et créatives de la société japonaise par rapport à Fukushima. Je suis pas sûr que c'était possible dans tous les pays, ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Un an après, il y avait déjà des sociologues, il y avait des philosophes, il y avait donc des poètes, il y avait des cinéastes. Il y a eu une époustouflante réponse intellectuelle au sens le plus large, y compris la création, mais aussi du point de vue théorique, pour essayer d'analyser qu'est-ce qui était en train de se passer. Et là, je parle dans l'année qui a suivi Fukushima, l'année 2011-2012. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'on avait eu avant, par exemple, le tremblement de terre à Haïti, où il y a eu aussi, hein, il y a eu des très grands livres qui ont été écrits là-dessus, notamment d'Annie Laferrière. Mais il n'y a pas eu quand même cette espèce de panoplie incroyable. Là, on voit quand même que le Japon a une force intellectuelle incroyable. Ce n'est pas tous les pays qui sont capables de répondre avec cette variété de réponses à un problème, surtout un problème de ce type-là, en partie nouveau, parce que le séisme, le tsunami, on connaît, mais la catastrophe nucléaire, c'était la première fois. Je parle pas des bombes, hein, je parle d'une catastrophe civile. Après Tchernobyl, par exemple, il n'y a pas eu tant de réponses si variées. Il y en a eu d'extraordinaires. Hein. La supplication d'Alexievitch, c'est un chef-d'œuvre et c'est quelque chose d'époustouflant. Mais là, je parle vraiment de la panoplie incroyable de réponses que la société japonaise peut offrir à ce type d'événement de crise. C'est très étonnant. Et c'est d'autant plus étonnant quand on regarde les réponses politiques. Qui est, alors, là, c'est d'une lenteur invraisemblable et c'est d'une. C'est pas à la hauteur, clairement. On le voit bien, 10 ans après, la réponse n'est toujours pas à la hauteur. Alors que le monde de l'art, au sens le plus large, hein, écrivain, philosophe, sociologue, le monde intellectuel a répondu présent quand même. Et on ne compte plus les textes intéressants sur la catastrophe. Les œuvres d'art, ce livre en est le témoin, les œuvres d'art, il y en a énormément et des choses très belles et très importantes et qui vont rester dans l'histoire de l'art, je pense. Donc là, le décalage entre le monde politique et le monde de l'art est tout à fait frappant, à mon avis.
Et est-ce que tu penses qu'il y aurait eu la même réaction s'il n'y avait pas eu la catastrophe nucléaire, s'il y avait eu que le tsunami et le séisme?
Il est clair que la catastrophe nucléaire apporte une coloration tout à fait différente. Parce que là, le séisme et le tsunami, les Japonais, ils ont l'habitude, y compris dans l'art. Je veux dire, c'est quelque chose qui est. Il y en a plein, plein. La catastrophe nucléaire a apporté quelque chose, a apporté un défi supplémentaire. Et pas n'importe quel défi, parce qu'en plus, c'est le défi aussi de tenir compte des gens qui vivent ça. C'est pas. C'est. Il y a tout un. C'est pas faire de l'art pour faire du beau avec le désastre ou esthétiser quelque chose. C'est pas du tout ça qui s'est passé, hein. Pas du tout. Je vois certains penseurs d'opérette là qui disent, ah mon Dieu, les artistes se font mousser avec Fukushima. Pas du tout. Quand vous interrogez les artistes, d'abord, c'est une grande douleur, une grande souffrance, une grande circonspection. Et les gens vont pas travailler sur Fukushima ou à Fukushima ou sur des sujets en rapport avec Fukushima. Les artistes le font pas. De gaieté de cœur, ils le font avec intelligence, ils se posent des questions. Je pense par exemple à un Fuji Hikaru, qui est un artiste formidable. Ils organisent des espaces de pensée. Voilà. Fuji, quand on lui demande, Fuji, il fait des films, il fait des documentaires, il fait des œuvres, il fait des installations. Mais il dit, moi, ce que je veux faire, c'est organiser avec l'art un espace de pensée où on va commencer à pouvoir penser ça. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de dire, bon, ben là, il y a un truc vachement important dans la société, donc on va faire de l'art avec, et on va transformer ce qui est atroce en quelque chose de beau, ou on va esthétiser. C'est pas du tout ça, et je trouve, à vrai dire, je trouve pratiquement pas d'exemple d'artiste qui a essayé d'esthétiser Fukushima. Je crois que c'est tout, de grands artistes, non. C'est tout simplement, c'est pas leur propos. Donc la question s'est jamais posée comme ça, c'est-à-dire la question s'est jamais posée comme Fukushima n'est pas un marché supplémentaire de l'art ou un thème qui tout d'un coup intervient pour des artistes en mal de visibilité. Ça, alors vraiment, tous les artistes que j'ai interrogés, ça n'a jamais été ça, vraiment jamais. Au contraire, c'est des gens qui sont allés sur le terrain la plupart du temps, ce que tous les gens qui bavardent sur Fukushima n'ont pas fait. Et c'est des gens qui non seulement sont allés sur le terrain, mais je reprends l'exemple de Fuji Hikaru, qui travaillent avec les gens de Fukushima. C'est-à-dire, ils vont là-bas, ils organisent des festivals, ils organisent des concerts, et puis il ne faut pas croire, les gens de Fukushima ne sont pas tous d'accord non plus. Il y en a qui veulent revenir, il y en a qui ne veulent pas, c'est de l'humain, hein. C'est variable, c'est chacun a sa conception, sa manière d'approcher les choses. Et là, je trouve que les artistes, ils sont... En étant très près comme ça du terrain, ils ont beaucoup de choses à nous dire, très complexes, très nuancées. Ils sont loin d'un grand discours idéologique comme on peut trouver, soit pro, soit anti-nucléaire d'ailleurs, peu importe. Moi, vous aurez deviné que je suis anti, mais c'est pas la question. La question des artistes tels qu'ils répondent dans ce livre, en tout cas, c'est même plus d'être pour ou contre. C'est juste de commencer à penser ce qui s'est passé là et comment en sortir. Voilà. Comment faire avec ça? Loin des grands discours à la fois théoriques, blabla théoriques de récupération par les sociologues, par les politologues ou par les hommes politiques eux-mêmes. Je dis pas qu'il y a que ça, hein, évidemment que non, heureusement, mais en tout cas dans le monde de l'art, ça a été rarissime. Je vois pas d'exemple en fait d'un artiste qui se soit fourvoyé là-dedans.